C'est un texte qu'on lit d'ailleurs souvent, couramment, dans ces occasions-là. Je voulais pas le lire, mais je suis poussé à le faire. Donc, on va le lire. Troisième épître de Jean. Donc, il n'y a qu'un chapitre. C'est le verset premier. L'ancien, on sait que c'est Jean, l'apôtre Jean, à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. On pourrait dire que c'est des vœux, des souhaits, un des vœux, un des souhaits les plus clairs et évidents que l'on trouve dans la parole. Vous êtes d'accord? Et je ne sais pas ce que vous aimez dire aux gens quand vous souhaitez des vœux, mais moi j'aime dire des choses qui sont bibliques, tout simplement. Parce que je crois que c'est le plus important. Et justement, je voudrais vous poser une question. J'aime bien vous poser des questions, vous avez remarqué, hein? Mais je nous la pose, je m'inclus dedans. Est-ce que vous préférez les vœux des hommes ou la volonté de Dieu? Bon, c'est évident. Est-ce que vous préférez les bonnes résolutions des hommes ou les bénédictions de Dieu? Vous êtes d'accord, c'est pas comparable, hein? Je lisais un petit peu, j'écoutais les informations. Voici quelques-unes des bonnes résolutions à la mode. D'ailleurs, celles-là, elles reviennent chaque année. Maigrir. Se mettre au sport. Lundi, je commence le régime. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Lundi, le premier lundi de l'année, je m'y mets. Ça, c'est des paroles. J'ai entendu parler de ce qu'on appelle le dry January, c'est-à-dire le mois de janvier sec, un mois sans alcool. Certains disent, ben oui, après les excès, il faut qu'on se résout à ne pas boire pendant un mois. Et certains disent, mais moi, c'est pas possible. C'est ça, c'est dans les remarques qui étaient dites, certains disaient, mais non, moi, ça sera impossible. Quand on en arrive à dire, c'est impossible que pendant un mois, je boive pas, faut se poser la question, est-ce que je suis pas devenu esclave de quelque chose? Vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous met une pression particulière si on vous dit, pendant un mois, il faut pas boire? Alors, non, pas plus que ça. Parce que on n'est pas dépendant de ces choses. Il y en a qui ont dit carrément, allez, pendant un an, il faut qu'on arrête de râler. Bon courage. Il faut déménager de la France, là. Parce qu'on connaît notre pays et on connaît le caractère des Français, puisqu'on est des Français. Mais tout ça, ce sont des résolutions des hommes. Et ce matin, je ne voudrais pas m'attarder sur ces choses-là qui font sourire. Je voudrais m'attarder sur ce que je pourrais appeler les vœux de Dieu pour nous. On va lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. C'est un texte qu'on va méditer pendant 2 dimanches, ou plus peut-être, au moins 2 dimanches, que vraiment j'avais sur le cœur pour commencer cette nouvelle année. Il y a un des versets au milieu de ce passage que l'on connaît bien. Moi, je connaissais la référence par cœur, 2 Chroniques 7, 14. Ça commence par « Si mon peuple ». Et on va lire un petit peu le contexte. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Voilà ce qu'il est dit, c'est quand Salomon a eu achevé de bâtir la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et il lui dit, j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Si vous lisez la suite, vous voyez que Dieu s'adresse particulièrement, personnellement à Salomon. Mais tout ce passage, il est adressé au peuple de Dieu de manière générale. et nous sommes le peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous remarquez dans ce passage les vœux que Dieu formule? Alors on s'aperçoit que les vœux de Dieu, ils n'ont pas la même forme que ceux que nous on peut faire. Vous avez remarqué, quand Dieu parle, c'est pas la même façon que quand les hommes parlent. C'est pour ça que vous avez tous dit, non, moi je préfère la volonté de Dieu que les vœux des hommes. Et on a raison. Mais comment est-ce que Dieu s'y prend pour nous souhaiter les vœux? C'est la première chose qu'on va voir. En fait, Dieu ne souhaite pas les vœux, mais il veut. Vous voyez la différence? Nous, on souhaite. Dieu, il veut, lui. Et quand Dieu veut quelque chose, sa volonté, la Bible nous dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Quand Dieu parle, il y a une action, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Franchement, quand vous souhaitez les vœux, on l'a fait, on le fait avec joie. Mais qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites? Il faudrait, j'espère que tous font ça, mais si on veut être cohérent et biblique et spirituel, avec le vœu que l'on prononce sur la personne, il faudrait qu'on l'accompagne de prière. Sinon, excusez-moi de le dire, mais sinon ça sert à rien. Sinon, ce sont des paroles en l'air. Vous êtes d'accord? Oui, parce que c'est des paroles positives, on pourrait dire ça, bienveillantes, d'un cœur joyeux, avec une envie de faire plaisir, etc. Mais on veut qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Est-ce que vous avez la puissance pour ce que vous promettez? Je souhaite la santé, je souhaite la richesse sur ta vie. Est-ce que ça va se passer juste parce que vous l'avez souhaité? Bon, pourtant, on le dit. Mais si derrière je prie, alors ça prend toute sa véracité, ça prend toute sa cohérence dans ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand Dieu parle, lui, il n'a pas besoin de dire je te souhaite ou ceci ou cela, parce qu'il dit, la chose arrive. Il parle et la chose est créée, formée. Il a parlé à la poussière, il a soufflé juste sur la poussière, elle est devenue un homme, un être vivant, animé par son esprit. Que son nom soit béni, c'est le Dieu tout-puissant que nous avons. Et justement, c'est important de réaliser qu'il y a des choses qu'on aimerait qui arrivent sur les personnes qui nous entourent, c'est les souhaits que l'on formule, mais c'est important de réaliser qu'on n'est pas capable par nous-mêmes d'apporter quoi que ce soit. On n'est pas capable d'influencer la vie de la personne autant qu'on voudrait. On peut le faire un petit peu à notre échelle, mais pas autant qu'on le voudrait. Le seul qui a tout pouvoir entre ses mains, le seul qui a la capacité de nous donner réussite et succès, santé même, vie éternelle sur nous, c'est Dieu. Et c'est à lui que nous devons nous confier. Quelqu'un a dit, vous ne pouvez pas briser les promesses de Dieu en vous appuyant sur elles. Même si vous le faites de tout votre poids. Je dis pas que vous êtes quoi que ce soit, hein. Mais les promesses de Dieu, elles sont solides. Et Dieu, en fait, ne fait pas des vœux, Dieu fait des promesses. Dieu parle, Dieu donne des garanties. Vous avez déjà acheté des appareils avec la garantie. Vous avez remarqué, c'est quand la garantie est terminée, au bout de tant de temps, que l'appareil se casse. Hein, c'est toujours comme ça, c'est fait pour. Comme ça, vous en rachetez un nouveau. Mais le Seigneur, lui, garantit sa parole. Il la garantit éternellement. Quand Dieu dit quelque chose, et Dieu dit quelque chose dans ce passage, je voudrais m'appuyer ce matin particulièrement sur ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, et que ça soit des garanties pour nous ce matin. Et quand Dieu dit ces choses-là et que nous mettons la foi dans ces paroles, alors il y a quelque chose qui change dans notre vie. Parce que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas notre raisonnement, notre intelligence, mais c'est la parole de Dieu, et c'est la puissance de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu qui s'engage pour nous. Amen. Alors, là, c'est la forme. Dieu fait des promesses plus que des vœux. Mais qu'est-ce que c'est le fond? Le fond et la forme. Qu'est-ce que c'est le fond des vœux de Dieu pour nous? En quoi elles consistent, ces promesses? C'est ce verset, c'est la fin du verset 14. Quand Dieu parle, il prononce ceci, « Je je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. On pourrait simplifier en disant que Dieu souhaite amour, sainteté et santé. Ça va, c'est des bons vœux, hein. Sauf que c'est Dieu qui les prononce, donc c'est des promesses, donc c'est des choses garanties, donc c'est des choses certaines. Et c'est intéressant de réaliser que Dieu déjà veut nous exaucer. Je l'exaucerai des cieux, littéralement, ça veut dire je l'écouterai déjà. Dieu ne fait pas les choses à moitié comme les hommes peuvent le faire. Dieu, quand il parle, il promet, c'est ce qu'on vient de dire. Mais quand il écoute, il est déjà en train d'exaucer. Nous, on peut écouter. On peut dire, oui, je comprends ce que tu viens de me dire. Et puis, 5 minutes après, on a tout oublié. Non? Vous avez jamais vécu ça, vous? Mais ça peut arriver. Parce qu'on est des hommes. Mais Dieu, il dit, je l'exaucerai des cieux. Je l'écouterai. Je permettrai qu'il y ait dans sa vie un moment où il y a quelqu'un qui l'écoute. Parfois, on se retrouve dans des situations où même s'il est les personnes qui nous aiment, les personnes qui sont autour de nous ont les meilleures intentions du monde, elles ne nous entendent pas forcément. Elles ne perçoivent pas le cri peut-être que l'on est en train de porter. Des fois c'est les paroles, mais des fois c'est nos attitudes qui parlent. Et vous avez déjà remarqué que parfois même ceux qui sont autour de nous sont impuissants pour nous aider. Mais Dieu dit, je t'écouterai des cieux. Il y aura un temps dans ta vie. Quand toi tu choisiras de venir, il y aura un Dieu qui va t'écouter. Il y aura un temps où tu auras la possibilité de dépencher ton cœur devant Dieu et Dieu sera là pour t'écouter. Dieu sera là pour entendre ce qui est lourd à porter dans ton cœur, ce qui te fatigue, ce qui est comme un fardeau. Venez à moi et je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur. Et Dieu promet en cette année nouvelle qu'il sera toujours là pour nous écouter. Et regardez le verset 15, il est lié à ce qu'on est en train de dire. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Dieu dit, j'aurai mes yeux ouverts sur ta vie. J'aurai mes oreilles ouvertes à ta prière. Est-ce que ça, c'est pas une preuve d'amour? Est-ce que ça, c'est pas une preuve qu'on a un Dieu dans le ciel qui s'intéresse à nous? Dieu ne dit pas, vous pourrez prier pendant des semaines et des semaines, et au bout d'un moment, peut-être que la prière va arriver enfin dans le ciel. Non! La prière de ton cœur, faite avec sincérité, honnêteté, mais Dieu l'entend, et Dieu commence déjà à l'exaucer. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut manifester sur ta grâce. Sur ta vie, sa grâce et son amour. Dieu t'aime. Dieu souhaite aussi que dans ta vie, il y ait de la sainteté. Je lui pardonnerai son péché. Est-ce que c'est possible en 2020 de vivre dans la sainteté? Comment est-ce qu'on devient saint? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit prononcer sur nous qu'on est devenu saint? Ben non. La Bible dit que celui qui croit en Jésus, il est lavé, purifié, sanctifié de son péché. C'est tout. Celui qui confesse le nom du Seigneur, celui qui confesse son péché, le Seigneur est fidèle et juste pour lui pardonner. Amen. Tout ça, c'est réalisable seulement parce que Jésus a donné sa vie à la croix. Parce qu'il a déjà accompli tout ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que aujourd'hui, simplement par la repentance honnête et sincère d'un cœur, ben, on peut être sanctifié, on devient saint. Saint ne veut pas dire parfait. On le répète souvent, parce qu'on voit tous, dans nos propres vies et autour de nous, des imperfections, des défauts qui sont là. Mais on marche sur le chemin de sainteté, on marche derrière le Seigneur, sur ce chemin qu'il a tracé pour nous, et le fait d'être engagé sur ce chemin de sainteté nous rend saints aux yeux de Dieu. Amen. Le Seigneur désire que nous marchions dans la sainteté. Et combien c'est important dans cette année 2020 de commencer, de recommencer cette année avec ce désir de dire, Seigneur, je veux être dans la sainteté. Je veux pas me laisser souiller par les choses de ce monde. Je veux pas laisser dans mon cœur des petites choses qui sont là. Vous savez comment marche le péché? Vous savez comment marche le péché dans nos vies? Parfois, on se dit, bon, c'est un tout petit péché, c'est pas très grave. Je vais le laisser, je le maîtrise, je suis plus fort. Et puis on se rend compte que petit à petit, ce petit péché-là grandit et commence à prendre de plus en plus de place et commence à nous faire avoir des raisonnements qui s'éloignent de la parole de Dieu et commence à nous donner des excuses pour ne pas obéir à la parole de Dieu et commence à nous faire des blessures et commence à prendre encore plus de place et à nous maîtriser et puis à nous amener même à blesser ceux qui sont autour de nous. Tout ça parce qu'à la base, on a laissé un petit péché dans notre vie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des petits péchés devant Dieu ? Hein ? Mais souvent on dit, oh non, mais celui-là c'est un petit péché, c'est pas très grave. Mais Dieu dit, je pardonnerai sans péché. Parce qu'il sait combien, même un petit péché, entre guillemets, peut faire tellement de dégâts. Le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché dans notre vie, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre mot qu'on peut employer. Mais Dieu nous promet la vie éternelle. Dieu nous promet la sainteté. Dieu nous promet d'être lavés, purifiés par son sang. Et c'est ce qu'il nous invite à croire encore dans ce début d'année. Et regardez le verset 6, ça rejoint, le verset 16, pardon, ça rejoint ce qu'on dit. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Je choisis et je sanctifie. Sanctifier, ça veut dire quoi ? Littéralement, ça veut dire juste mettre à part. Mettre à part pour quelque chose de saint, en fait. Dieu nous sanctifie. Est-ce que Dieu sanctifie ce bâtiment ? Puisqu'il parle d'une maison, on comprend que c'est un bâtiment. Qu'est-ce qu'il sanctifie aujourd'hui ? Les gens. À l'époque, c'était le temple de Salomon qui était en train d'être sanctifié, mis à part. C'était un lieu en Israël où les gens pouvaient venir avec l'assurance d'avoir leur prière entendue. Et vous savez que par la suite, c'est ce qui s'est passé. Lorsque Anne est venue prier, elle avait même plus les paroles pour prier, tellement sa douleur était grande à cause de sa stérilité. Elle a été entendue dans ce lieu-là. Amen. Oui, pardon, c'était avant. J'ai pris le mauvais exemple. Mais en tout cas, c'était un endroit où elle a fait monter vers le Seigneur sa prière. Et le Seigneur a entendu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un lieu comme celui-ci. Nous ne sommes pas dans le temple de Salomon. Nous sommes dans un lieu où nous pouvons faire monter notre prière. Et nous pouvons avoir l'assurance que Dieu nous entend. Que Dieu a son regard sur nous. Que Dieu a son oreille qui est attentive. Que Dieu veut nous faire rentrer dans cet état d'esprit où nous sommes dans la sainteté, où rien, aucun obstacle dans notre vie ne peut nous empêcher d'être exaucés. Et puis, il est dit, je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Est-ce que vous voulez que l'église de Moissac, Dieu la sanctifie et y fasse résider son nom à jamais? Amen. L'église de Moissac, on l'a dit, c'est pas le bâtiment, c'est nous autres. C'est chacun d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que quand Dieu parle, dans ce passage, il ne parle pas de manière individuelle. Il le fait après à Salomon, précisément. Mais il parle, alors bien sûr, il emploie la troisième personne du singulier, mais il parle de son peuple. Il parle pas de plein d'individus, non, son peuple. Il parle d'un tout qui regroupe plein de personnes, mais c'est un tout. Et toutes les promesses qui sont données là, elles sont pour ce tout. Combien ça serait dangereux de prendre les promesses en disant « Ah, c'est juste pour moi et juste pour ma vie !» Non, non, ces promesses sont valables dans le tout. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bien sûr que chacune de nos vies est un temple du Saint-Esprit, mais le temple, le corps de Christ, c'est nous. Amen. Si nous voulons vivre tout ce que nous entendons, tout ce que nous partageons depuis quelques minutes, c'est ensemble. C'est dans l'unité du Saint-Esprit. Et il est dit, je guérirai son pays. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant ? Oh non, mais la France va tellement bien. Qu'on n'a pas besoin de guérison pour notre pays. Tout va bien. Il suffit de regarder les informations et on voit que tout va très bien en France. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de réaliser que malgré tous les avantages que notre pays il a par rapport à beaucoup de pays sur la Terre, mais on voit qu'il est loin d'être heureux, loin d'être dans la satisfaction, loin d'être dans l'épanouissement. On veut plus, on veut toujours plus. Alors je dis pas que les revendications des uns et les lois des autres sont forcément bonnes ou mauvaises, je n'ai pas à donner mon jugement sur ça, mais je remarque qu'avec toute l'abondance qu'il y a dans ce pays, il y a tellement peu de satisfaction dans les cœurs, et que notre pays, il a besoin de guérison. Et Dieu dit, je guérirai son pays, je guérirai le pays de mon peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et nous voulons que Dieu guérisse notre pays. Alors bien sûr, il y a plein de façons de guérir. Il y a la guérison physique déjà, ceux qui sont malades. Le Seigneur est un Dieu qui est capable de guérir encore aujourd'hui. Le Seigneur est un Dieu qui est capable de guérir les cœurs, de guérir les blessures intérieures aussi, les difficultés dans le moral, dans notre âme. Dieu peut les guérir et Dieu surtout peut guérir aussi les cœurs brisés, les cœurs qui sont brisés par le péché et qui sont voués à l'enfer. Parce qu'il est le Dieu qui pardonne. Je lis en ce moment plusieurs témoignages de certaines personnes, certaines personnes qui ont été bénies par le Seigneur. Alors ça remonte un petit peu. Hein. C'était là un monsieur qui est né dans, enfin monsieur à l'époque c'était un bébé, donc le 31 octobre 1927, il est né à Elbeuf. Et le problème c'est qu'il est né avec le corps couvert d'eczéma. Et pendant 7 ans, il avait l'eczéma tous les jours. Ses parents devaient s'occuper de lui, de cet enfant, pour le panser, soigner les blessures, laver, etc. Tous les jours, il devait changer son lit, les draps, etc. Et c'était le martyr des démangeaisons, des plaies sanglantes et douloureuses. Il se réveillait le matin, les pansements étaient arrachés. Il essayait de mettre des pansements sur un bébé, vous voyez, qui se débat, etc. Les draps étaient recouverts de sang, tout collé à ses plaies. Alors c'était tout un calvaire pour cet enfant. Et il y avait la honte, il y avait de la colère, il y avait de la souffrance, il y avait un désir même de mourir. Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Dans l'histoire de ce jeune homme, il y a aussi à 1 an sa maman qui est décédée. Son papa s'est remarié, mais suite à une maladie, il est décédé alors qu'il avait 4 ans. 1 an, il perd sa maman. 4 ans, il perd son papa. Il reste avec la belle-maman. Il y avait aussi dans la vie de ce jeune homme une sœur qui était là, âgée de 9 ans de plus, et qu'ils étaient de tradition, on va dire, catholique. Sa sœur, elle allait aux offices catholiques pour essayer de trouver un peu de consolation, parce qu'en plus, elle avait ce qu'on appelle la neurasthénie, un genre de grosse dépression de l'époque. Mais un soir de juin 1934, cette sœur a pris l'enfant par la main, son jeune frère, et elle l'a amené à une réunion qui se tenait dans une salle de brasserie. C'était à 40 mètres de là où ils habitaient, donc à Elbeuf. Et elle est arrivée dans cette salle, il y avait plein de monde dans la salle, les gens qui chantaient un chant, un vêtement blanc, vous connaissez ce chant, un vieux cantique. Il y avait un jeune homme avec une petite moustache qui s'était mis à prêcher l'évangile et à la fin, il a invité les malades à venir sur le devant. Et monsieur Marc Nicole, c'était le pasteur qui était là, il imposa les mains au nom de Jésus. Et le soir, la belle-mère fit les pansements, comme d'habitude. Le jeune homme se couche, il avait 7 ans hein, donc à ce moment-là. Il s'est endormi sans se gratter quoi que ce soit et le lendemain il s'est réveillé. Et en enlevant tous les pansements, plus aucun eczéma. Dieu guérit. Dieu a guéri ce jeune homme. Il n'avait que 7 ans. Mais il vivait tous les jours avec sa maladie. Et du jour au lendemain, il a été guéri de sa maladie. Et sa sœur, qui a suivi également les réunions, qui a entendu l'évangile, a laissé le Seigneur rentrer dans son cœur et régler tous ses problèmes de déprime et de fatigue qui étaient sur sa vie. Et elle a été totalement libérée de tout ça. Et le problème, ce qui se passait, c'est que la belle-mère n'était pas d'accord. Elle disait, non, vous n'avez pas le droit de changer de religion. Alors quand ils partaient à la réunion, elle fermait la porte à clé. Et ils se retrouvaient porte close. Ils étaient obligés d'escalader la maison comme ils pouvaient pour pouvoir dormir dans leur chambre et dans leur lit. Ce qui fait que la sœur qui avait 16 ans à ce moment-là, elle a dit, mon petit frère Albert, je t'amène, je vais chercher un logement et on va vivre ensemble, je vais travailler et on va pouvoir aller librement à l'église. » Et c'est ce qu'ils ont fait, tout simplement. Ils ont quitté le domicile de la belle-maman et ils se sont mis dans cet appartement, juste dans le but de pouvoir avoir la liberté d'aller à l'église et d'entendre l'évangile. Et alors qu'ils allaient dans ces endroits-là, c'était les sorties des usines, les ouvriers qui sortaient, ils allaient à la réunion, ils écoutaient l'évangile, et il y a eu des nombreux miracles qui ont été réalisés, des gens délivrés, il y a eu des tuberculoses, des sciatiques, des ulcères, l'alcoolisme, du cancer qui a été guéri dans ces moments-là, dans ces réunions-là, si bien qu'à un moment donné, c'était en 1936, il y a une église évangélique d'Elbeuf qui s'est créée, qui s'est constituée, qui a acheté des locaux et qui fait qu'il y avait environ 150 personnes qui venaient tous les dimanches suite à cette mission qui s'était passée. Et c'est dans ce cadre de ces réunions toutes simples d'église que cet enfant qui a grandi depuis et qui a eu 13 ans, à 13 ans, il a dit « Seigneur, je veux m'engager à te suivre. Je veux te laisser rentrer dans mon cœur. Je veux, Seigneur, que tu guérisses. Tu as guéri mon corps ? Je veux que tu guérisses mon cœur. Tu as guéri l'âme de ma sœur qui était perturbée par sa maladie. Et tu veux aussi guérir mon cœur. » Et Dieu l'a fait. Je vous passe les détails, mais ce petit Albert, il est devenu le pasteur Albert Leblon, qui a été une bénédiction dans les années passées, dans le Nord surtout, pour ceux qui connaissent. Mais tout ça pour nous montrer quelque chose, c'est que Dieu veut guérir. Physiquement, moralement, spirituellement. Dieu veut guérir notre pays, mais Dieu va pas guérir notre pays sans nous aider, sans passer par nous plutôt, sans que nous l'aidions. Oh non, pas qu'il a besoin d'aide, hein. Il pourrait tout faire sans nous. Mais il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Mais pour pouvoir aider Dieu, mais il faut le laisser d'abord nous aider. Pour pouvoir être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, il faut d'abord que Dieu nous ait béni à nous, nous ait guéri à nous, nous ait fait du bien à nous. Et ce matin, je voudrais vous rappeler cette parole que le Seigneur dit, « Je guérirai son pays, mais je ne guérirai pas son pays, je ne guérirai pas le pays de la France, sans que d'abord je vous guérisse à chacun de vous en particulier, selon votre besoin. » Oh, ça ne veut pas dire que toutes les maladies vont être guéries du jour au lendemain comme ça. Ça ne veut pas dire que Dieu va permettre que on ne connaisse aucune maladie d'ailleurs. Faut bien équilibrer les choses. Mais tant que Dieu n'a pas dit le contraire, il veut nous guérir. Tant que Dieu n'a pas dit un dernier mot, je veux que par cette maladie tu puisses témoigner à d'autres personnes, ben on veut croire qu'il veut nous guérir. Parce qu'il est le Dieu de guérison. Et Dieu veut guérir notre pays. Et souvent on dit bon que tu aies la santé, que tu aies l'amour, la richesse pendant cette nouvelle année. Mais quand Dieu parle, lui, vous avez remarqué comment il dit les choses? Il parle de à jamais, il parle de toujours. Ça dure combien de temps ça? Ça dure longtemps. Quand Dieu parle, quand Dieu prononce des paroles, des promesses, c'est toujours et à jamais. Toujours et à jamais. Dieu désire que sa grâce se manifeste sur nos vies éternellement. Et je ne veux pas que cette année 2020, je passe à côté de ce que le Seigneur promet, de ce que le Seigneur proclame sur ma vie, mais je veux vivre, je veux réaliser ce qu'il dit dans sa parole. Vous avez remarqué quand même qu'il y a quelque chose d'important. Ça, c'est la profondeur, la grandeur et la beauté des promesses de Dieu. Mais il y a quelque chose d'important. Il y a ce petit « si ». Une petite particule qui est là. « Si ». Dieu promet santé, amour, sainteté. Mais il y a un « si ». Il y a des conditions. Ce matin, je ne voudrais pas rentrer dans cela. Parce que le temps passe. C'est pour ça que j'ai dit que sûrement on le verrait la semaine prochaine. Mais si mon peuple, déjà la condition c'est d'être son peuple. La condition c'est de réaliser, comme on le disait tout à l'heure, que c'est quelque chose qui nous est commun. Je ne veux pas vivre les promesses de Dieu tout seul dans mon coin. Parce que les promesses de Dieu ne fonctionneront pas. Je veux vivre les promesses de Dieu avec l'Église, avec le temple du Saint-Esprit, qu'est l'Église. Je veux vivre les promesses de Dieu avec mes frères et sœurs. Et quand je suis fatigué, je sais qu'il y a un frère, j'ai une sœur à côté de moi pour m'exhorter. Et quand c'est elle qui sera fatiguée ou quand c'est lui, ben je serai là pour l'édifier, pour l'encourager, parce que le Seigneur m'a mis dans une famille, le Seigneur m'a mis dans un temple et je suis une pierre vivante de ce temple. Connaissez le triangle du feu? Il y en a qui connaissent? Bon, souvent c'est pour la sécurité que tu as dû apprendre ça. Hein. Voilà. Le triangle du feu, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait un feu, une combustion, il faut trois choses. Il faut du carburant ou du combustible. Il faut du comburant, quelque chose qui va aider à la combustion. Alors le comburant le plus répandu, c'est l'air, l'oxygène. Et puis, tout ça, c'est très bien, mais tant qu'il n'y a pas la chaleur, c'est pour ça qu'on dit les 3 C. Combustible, comburant et chaleur. Tant qu'il n'y a pas la chaleur, ben, vous pouvez mettre autant de pétrole que vous voulez et autant d'air que vous voulez. S'il n'y a pas l'étincelle qui allume ça, il ne va rien se passer. D'accord? C'est facile à comprendre. Vous pouvez avoir les plus grandes et les plus merveilleuses promesses contenues dans la parole. Vous les avez comptées, les promesses de Dieu? Vous les avez comptées, les vœux que Dieu a formulés pour vos vies? Il y en a beaucoup, hein? Je vous invite à les compter. Il y a des petits livrets qui écrivent 1000 promesses de Dieu pour ta vie ou je ne sais combien. Peu importe le nombre d'ailleurs. Mais vous pouvez avoir tout ça. Vous pouvez avoir tout l'amour et la volonté de Dieu pour bénir votre vie. S'il n'y a pas l'étincelle de la foi qui dit oui, cette parole elle est pour moi, ben rien ne va se passer. Et toutes les grâces et les bénédictions de Dieu qu'il vous promet pour 2020 ne vont pas s'accomplir. Parce qu'il n'y aura pas de foi qui sera l'étincelle pour allumer le feu. Mais le Seigneur sait que ce matin que nous ne voulons pas vivre ça, nous voulons avoir l'étincelle de la foi. Nous voulons avoir la chaleur de la foi qui dit « Seigneur, je veux vivre ta parole, je veux goûter à tes promesses, je veux, Seigneur, que tout ce que tu as dit sur ma vie puisse s'accomplir dans cette année. Je ne veux pas rester indifférent, je ne veux pas me laisser entraîner par le flot de ce monde qui est dans l'incrédulité, qui est dans la remise en question. » Mais je veux être dans la simplicité de la foi et dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Que tes volontés, Seigneur, sur ma vie se réalisent et que tu puisses voir que dans mon cœur, je suis disposé à vivre ce que tu me promets. Amen.